I wonder about you. Are you racing or watching?
Ce soir, La Dispute, spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Touendoy, Boris Pinault et Camille André. La prise de son est assurée ce soir par Audrey Guélil et à la réalisation, c'est toujours Thomas Beau. Je salue ce soir autour de moi Anna Sigalevitch, Florian Guettet et Philippe Noisette avec à notre programme Roméo et Juliette de Sacha Waltz à l'Opéra, nouvelle pièce courte de la compagnie DCA Philippe de Coufflet et un DVD Ingmar Bergman vu par les chorégraphes. Aïssa Touendoy est également avec nous pour nous lire vos commentaires, des commentaires que vous pouvez laisser sur Facebook ou sur Twitter, et toujours un cadeau à la fin, puisqu'on retrouvera le jeu de la dispute. Ce soir, à gagner, le coffret de Michel Onfray, bref, Encyclopédie du Monde, volume 3, L'Animal, le Cosmos, coédité par France Culture. Et nous commençons cette soirée avec Roméo et Juliette, un ballet de Sacha Waltz donné à l'Opéra Bastille jusqu'au 4 mai prochain. Alors au départ, c'est une symphonie dramatique composée par Hector Berlioz en 1839 sur un livret d'Émile Deschamps, reprenant l'argument shakespearien. Une partition largement orchestrale, mais avec place faite aussi au chœur et à quelques airs, dont se sont emparés assez tardivement finalement les chorégraphes. Sacha Waltz est de ceux-ci. La chorégraphe allemande a créé Roméo et Juliette en 2007. On a pu voir le spectacle à Paris deux fois. C'est donc une deuxième reprise avec l'orchestre et les chœurs de l'Opéra National de Paris. Vélopane est à la baguette, le ballet de l'Opéra de Paris est sur scène et dans les rôles titres en alternance, Amandine Albisson et Hugo Marchand, Ludmila Pagliero et Germain Louvet. On écoute tout de suite un extrait. Alors Anna Sigalevitch, un premier regard sur ce grand spectacle de Sacha Waltz.
Oui, en effet, c'est un grand spectacle, c'est une grande forme. Je l'avais déjà vu, pas à la création en 2007, mais en 2012. La reprise où c'était aussi Aurélie Dupont et Hervé Moreau. Alors, je crois que la création, c'était Wilfried Romoli. Moi, je l'ai vu avec Nicolas Paul. Et cette fois-ci, donc, je l'ai vu avec Hugo Marchand, Amandine Albesson et... faisait le frère Laurence déjà, pardon, Audric Bézard, voilà. Alors, c'est un petit peu difficile de voir ce spectacle tout de suite après Orphée et Eurydice, je dois dire, parce que ça se succède dans la saison et c'est vraiment le même principe, parce que donc on a des personnages danseurs en scène et leur double chantant, et c'est vrai qu'Orphée et Eurydice est... pour moi, enfin, je pense qu'on peut parler de chef-d'œuvre, quoi. Je pense que c'est un immense, immense spectacle. Ce qui n'est pas, à mon sens, le cas du spectacle de Sacha Waltz, bien qu'il y a des choses très belles dedans. Mais j'aime beaucoup cette œuvre de Berlioz, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une œuvre absolument passionnante, d'une richesse incroyable. Donc, c'est très intéressant de voir toutes les forces vives comme ça en scène, malgré tout, à Bastille, avec donc, parce que le chœur est très important dans cet ouvrage, l'orchestre aussi. Et donc, il y a quelques solistes, mais qui ne sont pas exactement identifiés comme les rôles de Roméo, Juliette et le Père Laurence. Hein, c'est une mezzo, un ténor et une basse. Donc là, on a en scène, avec Sacha Waltz, trois personnages qui sont vraiment caractérisés, qui sont donc Juliette, Roméo et le Père Laurence. Il y a deux grandes plateformes qui sont en scène, un petit peu en quinconce, qui, on ne sait pas si elles sont blanches, enfin, elles apparaissent comme blanches, mais celle du haut paraît plus sombre, ça dépend des éclairages, hein, les décors bougent beaucoup en fonction des éclairages, et puis ces deux grandes plateformes vont s'ouvrir petit à petit, comme un coquillage, jusqu'à former un angle obtus et devenir complètement une surface lisse. Alors, il y a beaucoup de choses sur scène. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça commence au départ par une sorte de poursuite presque avec des entrées sorties à jardin où les danseurs déambulent. Ça va très, très vite. Est-ce que l'histoire est racontée vraiment par Sacha Waltz? Je suis pas sûre. En tout cas, il y a des moments. Il y a des moments et certains moments qui sont très beaux. Pour moi, le duo entre Roméo et Juliette, qui est assez long dans le ballet, il y a des choses qui sont très belles, c'est des mouvements qui sont complètement organiques, extrêmement fluides, avec beaucoup de portée, beaucoup de mouvements presque infinis. Voilà, Hugo Marchand était à une qualité de mouvement absolument merveilleuse là-dedans. Il y a quelques autres passages que je trouve assez beaux, la fausse mort de Juliette par exemple, où il y a son corps qui est porté comme ça, qui déambule sur le plateau. On dirait qu'elle flotte dans les airs, c'est un passage qui est très beau. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses et un peu trop de choses. Et la complication en fait de ce ballet n'est pas pour moi de la complexité. C'est-à-dire que je me demande ce que ça raconte et où ça va par moment, et ça brouille un petit peu la vue.
Mais alors, est-ce que c'est pas lié, j'ai pas encore vu le spectacle, hein, mais est-ce que c'est pas lié aussi à l'œuvre qui apparemment est de toute façon un poème sans vraiment d'aspect narratif? C'est en tout cas ce que revendique Sacha Waltz, le côté extrêmement déchronologisé.
Oui, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez littéral aussi dans ce qu'elle met en scène. C'est paradoxal pour moi la façon dont elle met en scène les choses, parce que l'abstraction, pourquoi pas, hein, enfin c'est pas du tout problématique, mais c'est très fourni tout le temps, hein, avec des duos, des trios, des septuors, des quatuors. Il y a beaucoup d'informations. C'est pas épuré en fait. Moi, je trouve pas que ce ballet soit épuré.
On va y revenir. Philippe Noisette, peut-être un premier regard. Vous avez peut-être pas vu la même distribution d'ailleurs que Cana.
Non, j'ai vu une distribution avec Germain Louvet et Ludmila Pagliero. Et c'est assez simple. Ce que dit Sacha Waltz, c'est qu'en choisissant cette partition, puisque en fait le ballet a plutôt choisi la partition de Prokofiev, le Roméo et Juliette de Prokofiev jusqu'à présent, il y a beaucoup d'exemples, elle dit cette symphonie dramatique m'a donné une vraie liberté. Cette liberté, on la retrouve d'une certaine façon dans sa création, et par moments, on sent qu'elle est corsetée, notamment par la présence du cœur, c'est flagrant à la fin, on a l'impression qu'il y a des masses de cœur qu'elle ne sait pas faire bouger. Anna parlait du décor qui est assez beau, qui devient une espèce de muraille, qui devient un balcon, qui devient tout ce qu'on veut, sauf que ce décor, donc deux podiums, on va dire, qui sont un petit peu surélevés, oblige les danseurs, le corps de ballet, dans les courses, à regarder où il met les pieds. Donc il y a une espèce d'encombrement de la pièce par cet élément qui dans l'absolu est une très très belle idée de scénographie, très simple. Il y a assez peu de choses, hein. il n'y a que ça en gros, les costumes sont ce qu'ils sont. C'est vrai que cette liberté elle est à double tranchant, j'ai envie de dire, puisque jusqu'à présent Sacha Waltz a montré notamment une vraie théâtralité, hein, dans son travail, sans parler de danse-théâtre, mais c'est vrai que les premières pièces de Sacha Waltz c'était très théâtral. Et là, on retrouve par instant une petite narration, une petite histoire. Il y a ce banquet, il y a ce regard, cette rencontre. Et puis, par d'autres moments, on a l'impression qu'il y a un petit peu du remplissage, une danse qui est assez bavarde, qui n'est pas forcément très bien servie parce qu'il y a cette obligation pour les danseurs de faire attention à l'autre, mais aussi au décor, et aussi au chœur ou au chanteur. Il y a beaucoup d'éléments, comme dit Anna, peut-être un petit peu trop.
Alors Florian Guettet, je vous vois opiner légèrement, on ne sait pas trop en fait.
Si, non, je me range à l'avis de mes compères, de mes confrères, consoeurs.
De vos compères.
Mais effectivement, je crois qu'aussi cette liberté que revendique Sacha Waltz, elle est beaucoup due au choix d'abord de Berlioz, c'est-à-dire que cette symphonie dramatique, il y a beaucoup de passages qui sont éludés dans la narration, donc effectivement c'est parfois difficile de comprendre pourquoi Juliette est morte par exemple, c'est vrai qu'il y a des sortes de sauts comme ça, donc la narration est pas forcément suivi, d'autant que Sacha Waltz a fait le choix de ne pas surtitrer en fait les morceaux chantés qui sont en français mais qui sont pas toujours compréhensibles, hein, notamment les morceaux du chœur. Enfin, pour moi, j'ai pratiquement rien discerné. On a le livret heureusement, mais donc on a cet abandon quelque part de la narration qui est mis au profit d'une dramaturgie des émotions. Donc là, on retrouve vraiment le romantisme de Berlioz, la musique comme étant cet art supérieur qui est là pour manifester des sentiments élevés. Et effectivement, tout repose un petit peu là-dessus. Alors ça donne une danse qui est parfois difficile à saisir, c'est-à-dire que tout est effectivement, il y a beaucoup de binarité, hein, c'est quand même, tout est sur le conflit, sur le dilemme, donc effectivement dans la mise en scène, tout est en noir et blanc, hein, tout est en ombre et lumière, il y a effectivement ces dédoublements de personnages, et puis même dans la danse, il y a un côté haut qui peut être très fluide, très aérien, un peu classique, néoclassique, et puis un bas qui est par contre très contemporain, ils sont pieds nus, dans ce contact, on voit là les influences variées, hein, de Sacha Valls qui passe de la danse contact à, malgré tout, la danse théâtre de Pina Bausch, avec notamment cette salle de bal, hein, le bal masqué, que moi, j'ai trouvé très réussi, avec vraiment du grotesque, de l'humour, véritablement l'humour. Alors, les danseuses sont en tutu très très court, avec une sorte de déhanché, un peu salsa, un peu danse de salon, et puis les garçons sont en costume lamé, et pareil, ils jouent ce rôle de danseur de salon, quoi. Donc, il y a quelque chose à ce moment-là de beaucoup plus léger, de très effusif, voilà, c'est l'impétuosité de la jeunesse et les débordements, le transport amoureux, etc. Et puis, donc toute cette première partie, moi, elle m'a assez emportée, quoi. Et puis arrive après une deuxième partie sur la mort, en fait, puisque c'est comment on passe de l'amour à la mort, et entre les deux, comment on passe par le rêve, avec notamment ce personnage de la fée, Mab, je crois, qui est voilà, beaucoup plus important dans le livret de Berlioz que dans le livret original, enfin en tout cas dans les textes de Virgile ou de Shakespeare. Et la deuxième partie, pour moi, n'en finit pas de finir un petit peu, quoi. C'est-à-dire qu'on a les funérailles, le tombeau. Alors, on retrouve la danse dont parlait Anna tout à l'heure, du duo amoureux qui est rejoué dans le tombeau. Et puis ensuite, on insiste vraiment sur la réconciliation, le côté très rédempteur, en fait, de la mort. Et à ce moment-là, on est dans une sorte de démonstration qui traîne pour moi en longueur. Et effectivement, Philippe parlait de remplissage. Moi, il y a un moment où je voyais pas bien la justification, en fait, de tout ça.
Alors, parlons peut-être du duo principal, celui que vous avez vu, Anna, je crois que c'était Amandine Albisson, du coup.
Amandine Albisson et Hugo Marchand. C'était bien. Hugo Marchand particulièrement, parce que voilà, il a des lignes qui sont vraiment magnifiques et ça lui va bien comme rôle Roméo. Amandine Albisson, elle fait très bien ce qu'elle a à faire. Après, dans l'échange et dans les rapports, dans le transport amoureux avec Hugo Marchand, bon, c'est pas un couple particulièrement enflammé. Alors que pourtant, il y a matière à ça particulièrement dans ce duo d'amour, où en fait les corps se retrouvent et se repoussent en permanence et ils n'arrivent pas à se séparer. Ils essayent de se séparer, ils se retrouvent. Ça, c'est un moment qui je trouve est vraiment beau. Et d'ailleurs, elle s'en va à la fin de ce passage sur en haut. Donc, c'est une sorte de petit clin d'œil à la scène du balcon. Et c'est par le pied qu'il l'attrape. C'est vrai que ce que vous disiez, Florian, sur le haut et le bas, c'est assez troublant. C'est-à-dire que on a un bas quand elles sont en tutu plateau pour la scène de mascarade, elles sont pieds nus. Mais ça paraît rien, mais ça fait beaucoup d'effet, en fait, de voir ces danseuses extrêmement sophistiquées en haut avec ces pieds qui touchent le sol. Du coup, elles ont un rapport à la terre qui est très intéressant, avec ces fesses en arrière, avec des déambulations qui ont quelque chose de la comédie dell'arte, du carnaval,
et
de tout ça.
Et le pied devient parfois main, c'est-à-dire qu'il y a des caresses, oui, des manipulations absolument, qui sont faites avec le pied, alors que normalement on verrait le geste amoureux.
Oui, Manuel. Bah oui, mais d'ailleurs il lui touche le pied quand elle s'en va. Et puis aussi dans le duo d'amour, les pieds de Juliette sont relâchés, ce qui est aussi une chose assez rare. Dans tous les portés, en fait, les pieds sont pas tendus, ce qu'on voit quand même très peu à l'opéra. Donc il y a un travail de toute façon sur le corps qui est intéressant, bien sûr.
Oui, d'ailleurs je lisais je voyais peut-être dans un teaser sur le site de l'opéra que je crois que c'était Amandine Albisson, oui, qui disait sa difficulté à danser pieds nus aussi longtemps et à s'entraîner pieds nus et à jouer sur du béton pieds nus. Je crois que les danseurs ont eu du mal avec cet aspect-là, je crois.
Mais oui, parce que comme c'est un langage qui est un peu mixte, du coup je pense que ça, quand on est vraiment dans quelque chose de contemporain, bah voilà, le haut ne se tient pas pareil, mais là en effet je peux imaginer que c'est pas évident.
Philippe Noisette, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que Sacha Valls fait à cette grosse machine hiérarchisée qui est le ballet de l'opéra?
Elle fait pas mal de choses, hein, puisque c'est, on sent qu'elle a eu cette ambition de prendre une œuvre qui n'est pas l'œuvre attendue. On aurait aimé, il y a déjà hein, des Roméo et Juliette, notamment sur Prokofiev, au répertoire de l'opéra. Elle fait un ballet qui peut convenir à l'idée d'un ballet contemporain avec pour une compagnie. C'est vrai quand on parle des deux corps, si je puis dire, les jambes et le buste, au-dessus du buste, on sent qu'elle est partagée, qu'elle veut faire danser un ensemble, mais qu'elle doit faire avec un cœur, la présence du cœur. Et dès que vous avez un cœur, vous avez moins de place pour les danseurs. Donc elle est vraiment partagée. Mais quand j'ai envie de dire que tout s'arrête et qu'il y a ce duo, alors je ne parle pas de la mort, mais de ce duo qui est une pièce dans la pièce. Ce duo dure 15 minutes peut-être. J'ai eu la chance, et je crois Florian aussi, de le voir avec une autre distribution. Et je crois que Ludmila Pagliero, qui a un vrai sens dramatique que peu de danseuses à l'opéra ont en ce moment, avec Germain Louvet, apporte quelque chose. Elle est plus âgée. On va pas se mentir. Et je pense qu'elle amène ce petit plus qui serait, elle a vécu plus que Roméo. Juliette a vécu plus que Roméo. Et donc, elle a plus de choses en elle. Et on voit cet échange entre les deux, qui est une danse superbe. Les corps ne font qu'un. C'est l'idée de Sacha Valls. Et je trouve que Germain Louvet et Ludmila Pagliero ont une langue commune à ce moment-là. Et puis, tout de suite, le ballet redevient quelque chose de bavard, quelque chose qui s'encombre lui-même de ses pas. C'est un petit peu dommage.
Florian Guettet.
Oui, effectivement, je l'ai vu avec la même distribution que Philippe, et heureusement qu'on a des individualités fortes, parce qu'en fait, la pièce elle-même ne laisse pas forcément éclore ces singularités-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle du chœur, pour les auditeurs, c'est 100 personnes. Donc c'est pas un petit corps, il arrive pas d'un coup à 100, hein. D'abord ce sont des petits groupes qui viennent, mais en tout cas ils sont pas restreints dans l'orchestre, et puis à la fin ils arrivent et c'est vrai qu'ils mangent le plateau complètement. Et d'une façon générale, par exemple les premiers rôles, on les voit assez tard individualisés au départ, on a vraiment que des scènes de groupe et on pourrait très vite être noyé en fait là-dedans, donc d'où peut-être aussi cette différence de perception entre les deux distributions, parce que c'est pas facile, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du combat aussi pour vivre, pour exister en tant qu'individu. Alors c'est assez juste par rapport au livret, hein, qui est de toute façon cette histoire-là, quoi. Comment on se défait.
Ils sont écrasés par.
Exactement. Comment on se défait des normes sociales. On a 16 ans, on est jeune, et comment on assume son sentiment, sa position. Comment on fait ses premiers choix d'adulte, quoi. C'est vraiment ça. Donc ça peut être à la fois un vrai atout en fait par rapport à l'histoire originale, et en même temps ça peut être très risqué.
Philippe Noisette, un petit mot.
C'est intéressant parce que Sacha Valls a essayé, elle n'est pas la seule, mais a essayé de faire en sorte que la danse soit présentée autrement, un autre rapport avec le public. Elle travaille aussi, elle met en scène des opéras. Et donc, elle a ce regard, cette façon de communiquer des émotions. Et c'est vrai quand vous êtes à l'Opéra Bastille, c'est quand même un gros vaisseau.
C'est difficile, ouais.
Vous avez beaucoup de mal à vous défaire de ce qui est un travail avec des chœurs à un moment, on les montre, on les montre pas, avec un décor, il faut qu'il soit quand même monumental, on ne peut pas se résoudre à faire que le balcon fasse un mètre seulement. Donc il y a toutes ces choses-là, et c'est d'autant plus dommage que Sacha Valls, que ce soit dans des musées, que ce soit dans des lieux publics, avait réussi jusqu'à présent à faire en sorte que sa danse ne se perde pas justement dans ses méandres. Là, c'est le contre-exemple.
Sur la musique, peut-être, Anna, on a entendu du Berlioz il y a peu de temps avec Benvenuto Cellini dans ce même vaisseau qu'est l'Opéra Bastille. Comment ça se passe à la fosse ?
C'est intéressant parce que moi, je préfère Roméo et Juliette que Benvenuto Cellini musicalement. Largement.
Moi aussi, je pense.
Mais bon, là, c'est pas la musique qui est considérée comme la plus importante. Donc, par exemple, le chœur n'est pas très investi. Ils font un peu le minimum syndical. Franchement, il y avait quelques décalages. Puis ils sont là. Ils font ce qu'il y a à faire, mais ils sont pas plus investis que ça. Vélopane qui dirige beaucoup les ballets, il fait ça bien parce qu'il écoute très bien. Enfin, il est très attentif aux danseurs. Il y a quelque chose de vraiment dans le flux, d'extrêmement cohérent, des tempi qu'on peut suivre. Donc, ça marche très bien. Mais bon. Est-ce qu'il y a la folie de Berlioz ? Non, je peux pas dire ça.
Non,
il y a pas. C'est bien fait pour un ballet, mais c'est pas. Je dirais que c'est pas plus que ça. Le trio. Alors, je sais pas si vous aviez les mêmes. Moi, j'avais Julie Bouliane, Yann Beuron et Nicolas Cavalier.
Je crois que c'est eux.
C'est même d'ailleurs. C'est ceux qui étaient, je crois. Enfin, en tout cas, en 2012, c'était Stéphanie Doustra qui chantait.
Création.
mais c'était aussi Yann Beron et Nicolas Cavalier. Mais ils sont bien. Mmh. Ils sont bien parce que Yann Beron, il a quelque chose d'extrêmement théâtral. On le voit souvent avec Laurent Pelly, avec dans des opérettes où il est où il a une présence en scène qui est très forte. Il joue beaucoup et donc là, il a des mouvements à faire. Il le fait très bien. Julie Bouliane, petit problème à mon sens de prononciation, enfin de français, mais un joli timbre, voilà. Et Nicolas Cavalier aussi. Donc c'est trois beaux chanteurs qui sont en scène.
Bon, on va peut-être quand même évoquer ce qui se passe à l'opéra, puisque aujourd'hui sont tombées des informations après la tourmente Benjamin Millepied. Il semble qu'Aurélie Dupont se trouve elle-même en difficulté, puisqu'a été divulgué, je crois, mais vous allez peut-être me corriger, Philippe Noisette, dans la presse, un sondage qui a été réalisé auprès des danseurs, mais qui devait rester confidentiel, sur la manière de gérer le ballet.
Tout à fait, c'est une série de questions, hein, plus d'une centaine de questions envoyées aux danseurs, donc à la compagnie. Je pense qu'il y a une centaine de danseurs qui ont répondu sur 154, donc ça veut dire que c'est quand même beaucoup de monde. Les retours ne sont pas très encourageants pour la direction, puisqu'on parle du manque de management, du manque d'écoute. On soulève aussi d'autres problèmes qui sont un petit peu à part, mais qui sont des problèmes de harcèlement, moral ou sexuel. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Peut-être que l'état de grâce pour Aurélie Dupont est un petit peu terminé. Dans ce cadre-là, danser, puisqu'ils sont en scène en ce moment, qu'ils préparent une création, enfin une reprise avec Offet Schechter, qu'il va y avoir aussi la fille mal gardée. C'est vrai que l'ambiance n'est pas joyeuse au ballet. Les danseurs ne parlent pas, c'est compréhensible. C'est vrai que c'est un petit peu difficile, un moment difficile, et surtout il n'y a pas de communication de la part de l'opéra, ce qui ne permet pas de déclencher, ou en tout cas de réfréner ces informations qui arrivent une semaine, depuis une semaine. Un moment difficile.
Oui, alors c'est un moment peut-être en effet difficile. Je pense que c'est aussi assez intéressant ce qui se passe parce que en fait on sait que les danseurs ne parlent peu, enfin ont eu peu la parole jusqu'à présent. Je pense qu'il y a quelque chose qui change parce que il y a des réseaux sociaux, parce que les danseurs sont sur Twitter pas mal, ce qui n'était pas du tout, évidemment ça n'arrivait pas avant, et je pense que la dureté de la discipline de l'Opéra de Paris depuis l'école, quand ils sont tout petits, elle existe évidemment depuis toujours, et on le sait depuis toujours, mais avec la nouvelle génération, je pense que les gens n'acceptent plus les choses de la même façon et que il faut, on peut plus agir, on peut plus être rigide et autoritaire de la même manière. Après, je crois que ça existe depuis quand même toujours. Enfin, moi, quand j'étais petite à l'école, mes copines qui étaient à l'école de danse et qui ensuite sont rentrées à l'école de danse de l'opéra, enfin, c'était très très dur. On connaît la dureté dont a fait preuve Claude Bessy quand elle était directrice de l'école, enfin.
Voilà, ouais, après, les accusations, par exemple, de harcèlement moral ou sexuel, ça va un peu au-delà de questions juste de discipline d'école.
De harcèlement moral, oui, je pense que, oui. On entend harcèlement moral plein de choses aujourd'hui. Après, c'est compliqué parce que ce sondage, il n'avait pas vocation à être divulgué. Donc, je pense que pour l'instant, je l'ai pas lu. Enfin, ça a été envoyé apparemment à certaines personnes.
Je ne sais pas
si vous l'avez lu, vous, Philippe.
Je l'ai lu. C'est assez long. On parle de beaucoup de choses. Donc les réponses sont à la fois, ça tient un peu du défouloir, mais il y a aussi des réponses qui sont très claires et nettes, à savoir que les danseurs estiment que la nouvelle direction ne va pas assez vers eux, ne leur donne pas la parole.
Mais c'est des choses qu'on entendait aussi avant.
Oui, mais peut-être qu'il y a une chose qui est nouvelle, c'est qu'Aurélie Dupont est une danseuse qui vient de la maison, ce que n'était pas Benjamin Millepied, ce que n'était pas Brigitte Lefebvre d'une certaine façon. Et donc il s'attendait peut-être à trouver quelqu'un qui aurait une meilleure oreille, une meilleure écoute. Visiblement, ce n'est pas le cas, parce qu'on demande beaucoup de choses à une directrice ou un directeur de la danse. Peut-être qu'il faudrait qu'elle soit secondée, c'est une évidence. Qu'elle prenne des cours de management, comme le dit une réponse dans l'enquête. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais pourquoi pas. Le ballet, quand même, à nouveau, dans une période compliquée. Il y a une jeune génération qui veut voir les choses et peut faire les choses autrement, tout simplement.
C'est ça, oui.
Bon, on suivra cette affaire. En attendant, on peut quand même les voir sur scène dans Roméo et Juliette de Sacha Valls. C'est jusqu'au 4 mai à l'Opéra Bastille à Paris. À suivre dans la dispute, Philippe de Coufflet et Ingmar Bergman.
France Culture.
La dispute. Lucille Comeau.
Nous sommes toujours au cœur de la dispute, ce soir consacrée à la danse, avec la nouvelle création de la compagnie DCA, fondée et menée par Philippe Decoufflet depuis 1983. Le spectacle s'appelle Nouvelle pièce courte. Il a été créé à Lyon il y a quelques mois et au terme d'une longue tournée française, déjà on peut le voir à Chaillot jusqu'au 9 mai prochain. C'est un spectacle qui propose 5 pièces que je vais citer. Duo, Le Trou, Vivaldi, Évolution et Voyage au Japon, avec une dizaine d'interprètes au corps et aux formations très différents, dont certains sont aussi performeurs, musiciens, chanteurs pour l'occasion. D'ailleurs, on écoute un extrait de la pièce la plus longue, la dernière, Voyage au Japon, qui réunit tous les interprètes dans un décor aéroportuaire sur un air de bossa.
S'il vous plaît, nous rappelons aux passagers qu'il est interdit dans l'avion et dans les toilettes. Merci aussi de bien couper votre ceinture et d'attacher votre téléphone portable. On va décoller dans quelques instants.
Solida ou lava, que cobre tudo, amargura minha boca. Sorri seus dentes de chuva. Solida palavra, cavada no coração. Resigno a doer muito no compasso da desilusão.
Desilusão, desilusão.
Dança eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Dança eu, dança você na dança da solidão.
Sucré, sucré. Sucré, sucré.
Desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Il n'y a qu'une viuva, Joana s'apaixonou. Maria tem ton amour, por causa de seu amor. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado.
Desilusão.
Desilusão, dança eu, dança você na dança da solidão.
Alors c'est un spectacle qui, si on est gentil, on peut dire qu'il fait feu de tout bois. Et puis si on est moins gentil, on peut dire qu'il mange un peu à tous les râteliers. Philippe Noisette, j'imagine que c'est pas le premier spectacle de Philippe Decoufflet que vous voyez. Comment il évolue,
Philippe Decoufflet, ou... je trouve que Philippe... Alors pour la petite histoire, j'ai ma première interview, voilà, c'était Philippe Decoufflet. Donc j'ai une longue histoire avec le bonhomme. Je le trouve un petit peu dur.
J'ai donné deux options.
Ok. Je trouve que justement Philippe revient un petit peu sur, il retombe un peu sur ses pattes. Il a eu une période un petit peu bizarre, avec notamment en essayant de faire un best-of de ses créations qui n'étaient vraiment pas réussies. Il a eu aussi cette période avec des grands spectacles, notamment le spectacle du Cirque du Soleil qui a été créé, je crois, il y a 2 ans maintenant, qui n'a pas rencontré le succès espéré. Il revient à des formes, qui sont des formes modulables, hein, puisque le spectacle, il faut le dire, vous avez parlé de duo. En fait, le duo est devenu un trio, puisqu'effectivement, le duo peut devenir un trio en fonction des danseurs disponibles ou des artistes disponibles. Je trouve que ça lui va plutôt bien, cette forme de pièce courte, en sachant que la dernière pièce fait quand même 30 minutes. Toutes les pièces n'ont pas la même valeur, je trouve. En tout cas, à mes yeux, c'est flagrant avec les Vivaldi, qui sont un petit peu moins flamboyants. Je trouve que Philippe ne se réinvente pas. C'est une chose sûre. Il dit lui-même, je ne suis pas un grand chorégraphe, mais il dit, j'ai peut-être cette capacité à mettre ensemble des gens, des idées, des images. Et je trouve que c'est particulièrement réussi sur cette pièce que j'aime beaucoup.
Alors peut-être on va prendre une pièce, celle que vous jugez la plus réussie, pour donner un peu une idée visuelle de ce que c'est que ce spectacle, Philippe Noisette.
Alors je vais commencer peut-être par le trio, parce que je trouve que c'est peut-être la pièce la moins visuelle, mais c'est la pièce qui met le plus en valeur trois interprètes, qui vont jouer avec un piano, qui vont chanter. Il y a une petite chorégraphie très simple, des mains, parce que sur le piano il y a un miroir, et donc voilà, il y a un jeu de mains, il y a un jeu de tête qui apparaissent, qui disparaissent. C'est du pur de Coufflet, sans trop d'esbroufe. Sur le piano, effectivement, on peut jouer avec un pied, on peut jouer avec une main, on peut s'embrasser. Donc il y a vraiment tout un jeu comme ça de trouble chorégraphique que j'aime beaucoup. C'est pas surchargé. Ça doit beaucoup à deux interprètes qui sont Julien Ferranti et Violette Vinti. Je cite les deux parce que c'est vraiment les interprètes que j'aime le plus dans ce spectacle, qui ont cette qualité de se glisser justement dans une chorégraphie qui n'a rien d'exceptionnel, qui est juste fait pour que les artistes prennent du plaisir, et ils en prennent beaucoup, et c'est assez communicatif, je trouve.
Florian Guettet.
Je vais peut-être pas tout de suite pencher d'un côté ou de l'autre. Je veux dire que c'est un spectacle polyphonique. C'est vrai que c'est un spectacle que j'ai trouvé très vivant, qui mélange les genres. Alors, ça passe du musical au cirque, à la danse contemporaine, au chant, au concert. Les univers, on passe du baroque à la pop asiatique, japonaise, les médiums avec la musique mélodique, parfois plus pulsée, etc. Et puis surtout un dispositif vidéo qui va comprendre des captations en fait par Kinect en direct et en différé, avec des jeux d'agrandissement, des multiplications, de différemment, tout ça projeté sur des sortes d'immenses persiennes, ou alors parfois sur un écran qui descend du plafond. Alors évidemment, ça sert dans une certaine mesure le spectacle, parce que de Coufflet, c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur le spectaculaire sans se faire d'illusions sur ce qu'est le spectaculaire. Je pense qu'il est très conscient de ce qu'il met en jeu. Mais moi, c'est peut-être là où est ma réserve en fait par rapport à ça, c'est que j'ai trouvé que ce jeu d'effets sur voilà, vidéo, en fait, tout ce qui vient quelque part augmenter, on va dire, la danse réelle, physique et concrète des danseurs, pour moi, est un peu plus fragile, un peu plus artificiel, un peu ringarde parfois sur le dispositif vraiment vidéo, ces sortes de bleutés, de superpositions. On se croirait vraiment dans des expérimentations telles qu'on a fait beaucoup dans les années 70, avec des gens comme John Sanborn, par exemple, qui reprennent vraiment cette esthétique. Donc là, j'ai trouvé ça un petit peu daté. Mais sinon, au-delà de ça, l'humour est toujours intact. Moi, je suis pas forcément un preneur, on va dire un acheteur du spectacle des spectacles de Coufflet. Pourtant, je trouve que c'est bien fait, que c'est bien réalisé, que c'est bien agencé. C'est-à-dire qu'il a vraiment quelque chose de l'ordre de l'articulation qui est très juste. Je trouve que dramaturgiquement, moi, je m'y suis retrouvé, même sur ces nouvelles pièces courtes où, voilà, il y avait une forme de liberté par rapport justement à la narration, puisque ça permet comme ça de scinder, de segmenter plusieurs idées en fait principales. Mais malgré tout, je trouvais ça vraiment très fluide. Je me suis laissé embarquer. Je trouvais ça agréable. Je trouvais que ça remplissait vraiment son projet. Que ça restait voilà inventif, voilà, après l'humour, bon ben on adhère pas. Moi, il y a un côté décalé que j'aime bien, et puis c'est toujours dans une certaine mesure, parce qu'il y a un moment où une fois qu'on a compris le ressort, ça me fatigue un peu plus.
Anna, je vais vous donner tout de suite la parole, mais on a quelques réactions sur Twitter à Issatou.
Oui, un message pour commencer de Philippe Verriel qui nous dit « C'est un dégoufflet assez décevant. Ces pièces sont, comme leur nom l'indique, courtes. Chorégraphe si doué et si peu enclin à prendre le moindre risque, Dégoufflet se borne à faire ce qu'il sait parfaitement faire depuis 20 ans. Autre message, autre ton. Merveilleuse pièce courte, un spectacle onirique, inventif, burlesque, des mouvements magnifiques, bref, que du bonheur pour Isa Neuschwander. Et enfin, un message d'un certain Arnaud Laporte qui nous écoute manifestement et qui nous dit un gage pour Philippe Noisette qui a dit deux fois Philippe et pas Philippe Dégoufflet. Par ailleurs, il a trouvé la musique de l'extrait assez terrible.
Anna.
Bon, moi j'ai trouvé ça assez difficile le spectacle, je dois dire. Je penche plutôt vers le deuxième... La deuxième proposition, votre deuxième proposition, Lucille, même si il y a des qualités indéniables, il y a une façon de, c'est très bien fait, et il y a un amour des interprètes qu'on sent et une mise en valeur des interprètes. Mais presque trop. C'est-à-dire que quand on sait jouer de la flûte, du coup, hop, on joue de la flûte sur scène. Quand on sait faire des sauts périlleux, hop, on fait des sauts périlleux. Il y a une optimisation, je dirais, des talents au pluriel des interprètes qui est à la fois sympathique et en même temps assez vaine, je trouve. C'est-à-dire que, par exemple, le trio au départ avec le piano, la flûte, pour moi, c'est que de l'effet et ça raconte pas grand-chose. C'est quelque chose un peu de l'ordre de la coquille vide. Dans une esthétique qui moi, ne me plaît pas beaucoup visuellement. Par exemple, tout ce tableau Vivaldi, c'est ça, ça
s'appelle Vivaldi au pluriel.
Oui, voilà, Vivaldi au pluriel. Où il y a Stabat Mater, il y a un concerto pour deux mandolines. Là, les danseurs sont dans des académiques bariolées et un peu, je sais pas, dans une esthétique un peu mexicaine, ou je sais pas, enfin en tout cas bariolées. Et là, ils déambulent sur scène en ayant quand même une gestuelle assez qui se résume à des balancées, des assemblées soutenues, quoi. C'est assez quand même des déboulés. Enfin, c'est quand même assez simple. Pourquoi pas, hein. Mais ça raconte pas grand-chose. Oui, on peut y voir l'évolution de l'homme. Ça, c'est assez tribal, puis ça devient sophistiqué. Mais bon, voilà, moi je peux pas dire que ça m'intéresse beaucoup et que ça me raconte grand chose en fait. C'est divertissant, c'est pas du tout désagréable à voir, mais voilà. Après, la salle était emballée, vraiment. Je sentais une ferveur, les gens applaudissaient très fort, donc ça fonctionne incontestablement. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi.
Philippe Noisette.
On dit souvent que Philippe de Coufflet est un chorégraphe populaire. Je pense que là, il s'intéresse plutôt à la pop dans le sens, voilà, à la fois musical du terme, peut-être visuel du terme. C'est vrai que quand Florian parle d'humour, il y a des touches d'humour qui sont tellement comme ça, des petites respirations qu'on peut passer à côté. Notamment, il y a une série de haïkus visuels qui sont pour moi d'une richesse incroyable, un bel humour comme il a pu l'exprimer notamment dans des films, des courts-métrages. Je suis pas sûr que tout le monde saisisse ça parce qu'il se passe beaucoup de choses à ce moment-là.
On les voit quand même, ils sont annoncés avant les tableaux. Enfin,
oui, mais on peut passer très très vite à côté, le blaireau, le héron blanc, tout ça. Je trouve qu'il y a, c'est une pochette surprise. C'est une pochette surprise avec des bonnes et des surprises moins bonnes. Mais quand Anna vous dit le trio, chacun optimise, on est plutôt content de voir des danseurs qui ont ce talent de pouvoir le faire sans être complètement ridicule. Effectivement, la flûte plus la voix plus danser plutôt bien, et moi ça me fait plaisir. Je vois quand même beaucoup de spectacles avec des interprètes qui sont mal à l'aise dans d'autres choses. Notamment, on fait beaucoup parler actuellement ou chanter les danseurs, et c'est quand même assez rarement réussi. Là, voilà, c'est la dimension pop de Philippe de Coufflet, et je trouve qu'elle est vraiment bien montrée. Et c'est vrai que l'articulation est complètement réussie, alors même que chaque pièce ne raconte pas la même chose que l'autre.
Oui, moi j'ai vu le spectacle en captation, j'ai été assez marquée par les différences de corps quand même, que je trouve assez intéressantes. Parfois c'est drôle d'avoir utilisé des gens qui sont aussi différents et dont on sent qu'ils ont une formation très différente. Et mention spéciale à Alice Roland qui a écrit aussi les textes et qui dit un texte où elle fait une grande liste de choses qu'elle achète dans un magasin de souvenirs à l'aéroport de Tokyo, et après elle bouge sur scène avec des immenses chaussures à plateforme. Et j'aime beaucoup Alice Roland, et je trouve que là pour le coup on voit à quel point l'optimisation entre guillemets dont vous parliez, Anna, peut aussi fonctionner, apporter quelque chose. Florian Guettet.
Oui, et puis cette énumération là elle est assez symptomatique aussi du spectacle. C'est-à-dire qu'à force d'accumulation, ça marche bien sur le début, et puis ensuite on est entraîné, donc du coup on sait plus trop quoi en penser, et peut-être qu'à la fin on peut un peu se fatiguer aussi de cette superposition un peu excessive parfois, enfin à nous de nous placer aussi en tant que public. Et moi en fait c'est quand ça s'est resserré que j'ai trouvé ça plus intéressant. Il y a quand même des sortes de tableaux visuels parfois très minimalistes dans cette profusion-là. Je pense notamment à ce duel, cette sorte de figure siamoise très arachnéenne.
Des deux filles
super, sur un fond orangé en ombre chinoise.
Enfin, étrange.
Et puis en plus on s'attend pas du tout à ça à ce moment-là, quoi. Donc il y a comme ça des moments un peu de grâce, quoi. Enfin, ça qui viennent trancher dans cette économie la profusion. Et puis il apparaît aussi, faut le dire aussi, il apparaît quand même sur le dernier tableau, sur la dernière pièce. Et c'est vrai que quand il apparaît, il est précédé d'une phrase où il dit je continue de vieillir en fait. Et on sent effectivement qu'il y a cette forme de nostalgie là. Alors peut-être de vouloir aussi peut-être dresser une sorte de bilan. En tout cas, on voit qu'il y a la mémoire de tout ce qu'il a traversé, des gens qu'il a rencontrés, des voyages qu'il a fait en centre très vite. C'est pas du tout centré sur notre culture. Hein, là, c'est clair. Donc il y a, j'ai trouvé ça touchant en fait, cette forme de témoignage là aussi final sur lequel on arrive.
Philippe Noisette,
peut-être
un
une nostalgie de la part de Philippe de Coufflet et il essaye de la tenir à distance, cette nostalgie. Ce qui en fait un spectacle, je trouve, assez révélateur de son état d'esprit aujourd'hui.
Florian.
Oui, non, juste quelque chose aussi. C'est un spectacle qui est en hommage aussi à deux interprètes qui étaient Raphaël Crous, qui justement est décédé pendant la préparation de ce spectacle, et de Christophe Salengro, qui a été évidemment un de ses interprètes. Donc ça a rajouté aussi peut-être une autre dimension à ces nouvelles pièces courtes.
Voici donc pour Nouvelle Pièce Courte, donc la nouvelle création de la compagnie DCA Philippe de Coufflet, et c'est jusqu'au 10 mai à Chaillot, Théâtre National de la Danse.
France Culture,
La Dispute, Lucille Comeau.
Troisième et dernier sujet de cette dispute danse, un film sorti en DVD il y a quelques semaines intitulé Ingmar Bergman Through the Choreographer's Eye. Je le dis en anglais parce que c'est écrit comme ça sur la pochette, mais en français ça donne Ingmar Bergman vu par les chorégraphes. C'est paru chez Bel Air Classique. Alors le point de départ, c'est une initiative suédoise. Quatre chorégraphes, Alexander Ekman, Paris Berg, Pontus Lidberg et Joachim Stephenson, se sont rendus en 2016 sur l'île de Faro où a vécu, travaillé et où est mort Ingmar Bergman. Ils ont créé sur place chacun une chorégraphie, en l'occurrence deux solos et deux duos, en collaboration avec le Ballet Royal de Suède. À l'occasion du centenaire de la naissance de Ingmar Bergman, paraît donc ce film qui rassemble la captation des quatre performances, ainsi qu'un documentaire sur les conditions de la création, mais aussi d'ailleurs sur Bergman d'une certaine façon. On en écoute une petite bande-annonce.
From existing, I had been in a situation of not existing, and that makes me very happy. That life is, I am conscious about myself and everything, and then suddenly, or slowly, my conscious fades out, switches off, and it's not, it is a not existing. And that is a marvelous feeling. That from existing, I'm a not existing. And no, at that moment, nothing can happen to me.
Alors Florian Guettet, charge repose sur vous de nous donner une idée en très peu de temps de ce que c'est que cet objet étrange.
C'est un film donc, qui a été un film d'occasion, hein, qui est une commande, qui a été présenté en ouverture du Festival Nordique déjà en janvier à Chaillot, qui sort aujourd'hui en parallèle d'un autre spectacle qui va être donné aux Champs-Élysées, là aussi par des chorégraphes suédois en hommage à Bergman.
Mais pas tous les mêmes, je crois.
Hein. Non, pas du tout. Il y a que Ekman. Et justement, Matzek, qui est un peu le grand absent de ce DVD, et par contre sur scène aux Champs-Élysées. Alors moi, ça m'a replacé les choses sur le rapport de Bergman à la danse, donc déjà première approche, et ça j'en suis assez content, parce que Bergman, ça suffit pas de dire que le mouvement chez Bergman a quelque chose de chorégraphique. Après tout, on pourrait dire ça de la plupart des réalisateurs, quoi. Mais Bergman, il a quelque chose de plus intime, en fait, en rapport à la danse. Déjà, sa première femme, Else Fischer, était ballerine et chorégraphe. Et puis, on a, moi, j'ai revu pour l'occasion Jeux d'été, hein, qui est donc Marie et ballerine, hein, et on suit évidemment son amour malheureux avec David. Dans le 7e saut, évidemment, la danse macabre, hein, qui est quand même le grand motif avec cette phrase, la mort implacables les invite à la danse. La danse de Karen à travers le miroir, à travers le miroir qui est d'ailleurs le film à partir, enfin qu'il va tourner sur l'île de Faro et à partir duquel il ne va plus que tourner là-bas. Et puis un court métrage, un moyen métrage que je ne connaissais pas, que j'ai pas eu le temps de voir, qui s'appelle La danse des femmes condamnées aussi, qui est le film de Bergman sur la danse. Donc d'un coup ça m'a redonné une autre approche de une autre entrée dans le cinéma de Bergman. Et puis après il y a le côté chorégraphe. Alors le côté chorégraphe, moi je me suis rendu compte que je n'étais pas fan de la chorégraphie suédoise. Vraiment, je me suis rendu compte de ça. On a quatre hommes.
Non, vous ne pouvez pas dire de la chorégraphie suédoise, de ce que vous avez vu.
Quatre hommes. Non, mais on nous le présente un peu comme les quatre représentants, parce qu'ils passent au ballet, etc. Qu'effectivement, ils ont des profils très divers, mais qu'ils oscillent entre le mainstream et l'institution. Ekman, j'en ai déjà dit tout le bien que je pensais avant, mais Joachim Stevenson fait des pubs, des émissions télé, on le voit aussi dans Let's Dance ou des choses comme ça. Et puis à côté, on a des gens plus classiques, comme Per Eisberg, par exemple, qui est beaucoup plus installé, on va dire, dans le ballet royal de Suède, c'est un maître de ballet. Et puis, Pontus Hildberg qui fait un petit peu le sort de liaison entre ces générations, puisque c'est quand même au moins trois générations de chorégraphes qui sont présentées.
Alors peut-être prenez une des performances, comme ça on essaye de décrire un petit peu celle que vous avez le plus aimée ou qui vous paraît la plus marquante.
Alors
plus
moi celle qui m'a le plus plu, c'est la dernière de Joachim Stevenson qui s'appelle On a Purse, qui est vraiment pour le coup une œuvre plutôt citation sur personnage.
La plus référencée. Ouais.
Ouais, c'est clairement la plus référencée. C'est vrai que c'est une sorte de danse-théâtre aussi. Il y a un décor beaucoup plus important que dans les trois précédentes, avec la reconstitution d'un hôpital psychiatrique, avec ce duo qui en fait joue trois personnages, qui lui-même change aussi. Enfin, il y a une forme de symétrie entre le premier duo tout en blanc et puis ensuite en noir. Il y a quelque chose de très étrange. Et puis c'est le Bergman que moi je préfère aussi. C'est le Bergman métaphysicien qui dit son angoisse par rapport à la mort, qui dit ce que c'est que la liberté. Et ça commence comme ça. C'est que la liberté de ne pas se sentir exister, c'est-à-dire un moment d'être émancipé du poids de l'existence et d'être juste dans une forme de flottement. Et ce sentiment, voilà, rare et difficile à dire. Moi, j'ai pas forcément les mots. Par contre, je pense qu'on a un corps pour dire ça. Et Joachim Stevenson, en très peu, voilà, dans une proposition simple, ce sont que des formes courtes. Enfin, même si Eisberg a pris quand même 20 minutes pour construire sa chorégraphie, mais Stevenson fait quelque chose d'assez concentré qui m'a beaucoup plus touché. Il y avait quelque chose un peu de Kirschmaker dedans. Il y avait quelque chose qui m'a rappelé aussi à d'autres formes, qui m'a décentré beaucoup. Je trouvais ça très tenu. Ça parle beaucoup de maternité, de féminité, ce que c'est que la sororité, voilà. Moi, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont plu dans cette dernière proposition, que j'ai trouvé certes peut-être plus proche en fait du cinéma de Bergman, hein. Les autres ont pris des options un peu plus personnelles, plus abstraites, plus référencées, plus sur le souvenir, etc. Lui, c'est vrai qu'il colle quand même à Bergman, mais moi c'est ce que j'attendais en fait, ce DVD aussi, parce que c'est un DVD hommage. Joachim Stevenson a eu l'intelligence de s'effacer aussi face au grand maître du cinéma.
Anna Sigalevitch.
Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce DVD, c'est la structure, en fait. C'est la façon dont il est encadré, de la façon dont il est mis en scène. Donc, comme vous le disiez, Florian, c'est vrai qu'on comprend des choses sur Bergman et la danse. On se pose des questions, on trouve des réponses qu'on se serait pas forcément posées. En tout cas, moi, je n'avais pas forcément réfléchi à ça. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que entre chaque chorégraphie, il y a les mots de Bergman qu'on entend. Vous disiez, Florian, son rapport à la mort, son angoisse avant les premières répétitions. Il y a plein de choses comme ça qui sont belles d'entendre sa voix comme ça au départ. Et puis cette île de Faro. Donc ça commence avec des plans comme ça de l'île, et puis ça se termine avec ça. Et en effet, on a envie d'y aller. Donc le DVD est réussi parce qu'on a envie d'aller à Faro, on a envie vraiment de revoir ou de voir certains films de Bergman. Et puis il y a quelque chose qui travaille, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, le troisième film de Pontus Hildberg, qui est très simple, parce que c'est juste donc un homme qui a les cheveux décolorés, il y a un cheval au fond, et un cheval, j'ai dit ça.
Oui.
Un cheval.
C'est lui, hein, il me semble.
Oui, c'est Pontus Lebergue.
Oui, oui, c'est lui-même.
Oui, oui.
C'est pas lui le cheval.
Non, mais c'est pas lui le cheval. Mmh. Ouais,
il y a un cheval et il y a lui.
Voilà, et là, on pense à des films de Bergman aussi. Mmh. On se dit, ah tiens, est-ce que c'est pas l'œuvre du serpent, la figure du cheval? Quand il parle d'Ismaël, on pense évidemment à la rencontre avec Alexandre, la vision d'Alexandre. Donc, il y a des fantômes de films de Bergman qui se promènent et qui se promènent de façon différente dans les quatre films. C'est-à-dire que, par exemple, Alexandre Ekman, lui, il n'est pas du tout dans la référence à Bergman, mais il se dit, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être chorégraphe? Qu'est-ce que c'est que le mouvement pour moi? Qu'est-ce que c'est que le plaisir de danser? Et qu'est-ce que raconte Bergman dans son cinéma? Et qu'est-ce qui se serait passé si je l'aurais rencontré? Donc c'est très narcissique, le film de Bergman. Mais pourquoi pas?
Voilà, non, mais même Bergman est rejeté en fond. C'est-à-dire que c'est juste deux minutes où on présente des extraits.
Ça voilà, fait un peu prologue, Kiri, finalement. Baiser, ça fonctionne un peu comme ça, moi, je l'ai senti
oui,
un
oui,
peu
oui,
comme
on
ça.
Voilà, tout centré, quand même.
Le second film, c'est vraiment Scène de la vie conjugale, avec les chapitres différents. Donc, Scène de la vie conjugale, puis Sarabande, hein, puisqu'il y a la suite de pour violoncelle de Bach, et puis ce couple qui se déchire, qui se retrouve, qui n'arrive pas à se quitter et qui en même temps n'arrive pas à vivre ensemble. Donc c'est à la fois ce qui est amusant, c'est que c'est pas systématique, c'est-à-dire que chaque chorégraphe s'est approprié la façon une façon particulière de rendre hommage à Bergman.
Philippe Noisette.
Dans les citations qu'on entend, hein, parce que c'est la voix de Bergman, il y a celle-ci que j'aime beaucoup, c'est de Ingmar Bergman. C'est un metteur en scène ne devrait pas avoir peur d'utiliser le couteau. Et quand je vois ces images, tout est très bien fait. On voit qu'il y a quand même un minimum de moyens. On voit que l'image est léchée. C'est vrai que ça donne envie d'aller, pourquoi pas, sur cette île. Pourquoi pas de voir les films. Il faut savoir que ça correspond au centenaire. Hein. En 2018, de sa naissance, on va beaucoup parler de Ingmar Bergman et on va beaucoup le fêter d'une façon ou d'une autre. On a voulu présenter des jeunes chorégraphes. Enfin, c'est une jeune génération, même s'ils ont des âges différents. Mais c'est effectivement par rapport à Johann Inger ou Malsek, c'est la génération plus récente. Et à aucun moment, je n'ai l'impression d'entendre des voix, une voix originale qui serait celle de Pontus, Lindbergh, celle de Alexander Ekman. J'étais un petit peu étonné, surtout que je crois que le fils de Bergman, Ingmar Bergman, est
junior.
Coproducteur ou autre.
Ça, c'est très étonnant, je suis d'accord.
Mais c'est vrai que ça donne envie de lire Bergman, regarder
les films, d'écouter des documentaires. Les spectacles passent complètement au second plan.
La danse est un peu quand même victime de...
Mais en fait, quand on regarde le documentaire, on se rend compte qu'à quel point aussi tous ces artistes-là sont écrasés. Enfin, on sent que c'est une référence telle en Suède que peut-être on ne perçoit pas en France, qui les écrase littéralement. Et peut-être c'est difficile de faire quelque chose avec un héritage pareil qui est celui d'Ingmar Bergman. Je me suis vraiment dit ça, c'est tellement énorme pour eux. Ils n'arrêtent pas de dire, il y a tellement de films, il y a tellement de choses. Ouais. Florian Guettet.
Oui, d'autant que en fait, c'est plus polémique que ça aujourd'hui, Bergman en Suède. C'est-à-dire qu'il y avait encore ceux qui le suivent énormément, qui l'adulent, etc. Et puis il y a ceux qui le rejettent complètement. Il y a aussi ce mouvement-là en ce moment. Donc je crois qu'eux aussi sont dans cette responsabilité-là de savoir si on doit lui rendre un hommage appuyé, le sauver, faire une sorte d'apologie du cinéma de Bergman, ou aussi on peut être simplement sincère avec l'expérience personnelle. Parce qu'en fait, tous ces chorégraphes-là, ils ont vu Bergman quand ils étaient petits, quoi. Enfin, c'est vraiment une histoire, c'est une culture, en fait, voilà, très très familière. Même les couches populaires, finalement, ont accès à Bergman en Suède, quoi. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en France, quoi. Alors, cela dit, sur Bergman, j'ai trouvé intéressant Iceberg parce qu'il est allé chercher, en fait, des albums de photos en fait qu'il a retrouvé de Bergman, et on peut supposer que le couple en fait qui est là, c'est justement les parents de Ingmar Bergman Junior, c'est-à-dire donc Ingmar Bergman Senior et Gunvor Aberg qui était sa deuxième compagne, je
il
crois
en a
deuxième
eu cinq troisième ou
six. Voilà qui était philosophe. Et d'un coup là, c'est vrai qu'on rentre un peu dans une intimité aussi de Bergman, ce qui me renvoie d'ailleurs à la deuxième partie, puisque enfin on va dire au deuxième, ce que nous propose ce DVD au-delà des chorégraphies, qui est le behind the scene, qui est vraiment les coulisses en fait, mais qui est peut-être même plus intéressant que le premier, parce que on voit justement ce rapport à la terre, ce rapport. Même j'ai trouvé que les paysages étaient peut-être moins lyriques, mais plus intéressants dans cette deuxième partie-là, parce qu'on voit notamment beaucoup le travail de la lumière, le reflet de la lumière sur l'eau, par exemple, parce que effectivement c'est une île et que ça nous écrase de lumière et qui est très important en fait chez Bergman. Donc moi, c'est cette intimité là de me dire, est-ce que on peut se mettre dans les yeux et dans la peau de Bergman, et qu'est-ce que ça produit dans ce cas-là?
Philippe Noisette.
Peut-être qu'Alexander Ekman est celui qui réussit à à se détacher de la mission, mais pas complètement. On aurait presque envie, on a l'impression qu'il va dire à un moment, Alexander Ekman, en fait, je m'en fous un peu de ce projet, je le fais parce qu'il faut le faire, parce que je suis suédois, parce que c'est quand même Bergman. Voilà, il y a une chose que j'aurais aimé, non pas qu'un chorégraphe se mette à dire je n'aime pas, ça a gâché mon enfance, mes parents m'ont obligé à regarder les films, mais peut-être autre chose, quelque chose qui soit plus personnel. Et c'est vrai que le film bis est presque plus intéressant que ces chorégraphies un petit peu formatées.
On va demander à Anna de faire la prochaine choré puisqu'elle a été traumatisée par les films de Bergman vus beaucoup trop tôt.
Ah oui, parce que mes parents pensaient que quand il y avait des enfants dans un film, c'était des films pour enfants. Donc je pense que j'ai vu Fanny Alexandre à 5 ans, quoi. Donc ça m'a un peu traumatisée en effet.
Ingmar Bergman, donc c'est un DVD Ingmar Bergman vu par les chorégraphes et il a paru aux éditions Bel Air Classique. Il est bientôt l'heure de conclure cette émission, mais non sans avoir joué. Camille André est là, qui nous rappelle d'abord la question d'hier et qui nous en donne la réponse.
Quel réalisateur américain a donné le rôle d'Andy Warhol à David Bowie? Et il s'agit de Julian Chambell dans son film Basquiat.
A gagné ce soir le coffret de Michel Onfray, Brève encyclopédie du monde, volume 3, L'animal, le cosmos, qui est une coédition France Culture. Quelle est la question, Camille?
Quel est l'animal présent sur scène dans La mélancolie des dragons de Philippe Ken?
C'est pas un cheval.
Non.
Si vous avez la réponse, vous pouvez l'envoyer ainsi que vos coordonnées postales à l'adresse suivante, auditeurfc@radiofrance.com. Les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de La Dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. Aiguisez vos commentaires pour l'émission de demain, vous pouvez les poster sur la page Facebook de La Dispute dès maintenant ou attendre le direct pour commenter via le compte Twitter DisputeFC avec le hashtag La Dispute. Demain, je serai en compagnie d'Emmanuel Giuliani, Emmanuel Dupuis et encore vous, Anna Sigalevitch, pour une dispute consacrée cette fois-ci à la musique classique. Au sommaire, The Beggar's Opera, une création de William Christie et les arts florissants dans une mise en scène de Robert Carsen. C'est au Bouffe du Nord, un disque Rachmaninov par Nikolaï Louganski. Et puis un essai, Le voyage d'hiver de Schubert, Anatomie d'une obsession, ça c'est de Yann Bostridge.